Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Tout le monde le sait et le dit, l'informatique, c'est un gouffre énergétique. Rends-toi compte, cela représente 4,7% de la consommation totale d'électricité de la planète. Bon, soyons sérieux, le numérique n'est pas une industrie qui pèse le plus sur le changement climatique, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire d'efforts. Le cloud, donc les data centers, sont de plus en plus présents et ils présentent un enjeu majeur. Ils consomment des matières premières, des métaux rares, de l'énergie, de l'eau, et j'en passe, et ils prennent de la place. C'est donc un des enjeux pour les entreprises comme Scaleway.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans cet épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité sur un sujet particulier. Aujourd'hui, on ne va pas parler directement d'écologie, mais d'ARM. Il faut savoir que l'ARM consomme a priori moins de place et moins d'énergie que l'architecture AMD64 qui fait la majorité des serveurs du cloud aujourd'hui. Mais on va justement en parler dans l'interview. Si tu te poses des questions sur la consommation énergétique que j'ai annoncée dans l'introduction, j'ai aussi mis un lien en description. Comme d'habitude, la description est blindée de liens. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Lutringer, qui est, comme il l'écrit lui-même sur LinkedIn, directeur de la R&D chez Scaleway, développeur et contributeur Arch Linux, bidouilleur de logiciels libres, mais surtout passionné de technologie. Bonjour Sébastien et bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Bonjour Christophe, merci de m'accueillir dans le podcast. Tu m'as déjà extrêmement bien présenté avec ces quelques lignes volées de LinkedIn, donc je n'ai pas grand chose à rajouter. Tout est dedans quasiment.
Bon, ben, si ton LinkedIn est à jour, alors c'est parfait. Alors je vais te poser quelques questions rituelles que je pose à tous mes invités. Ça permet de se mettre en marche. La première question, c'est quelle est ta définition à toi du DevOps?
Pour moi, le DevOps, c'est quelque part quelque chose qui permet de réconcilier le développement et l'opération, le build and run d'une solution. Donc, moi, j'entrevois ça plus comme une façon, en tout cas un ensemble de principes qu'on va mettre en place pour arriver à avoir une continuité et faire en sorte que le développement logiciel intègre les opérations et que les opérations, quelque part, soient connectées avec le développement. J'ai envie de dire, moi, l'analogie que je fais quand je parle de ça, c'est la Formule 1, prenez sport automobile. Le pilote, c'est quelqu'un qui opère la voiture et les mécaniciens sont ceux qui la construisent et la modifient. Il faut que la communication entre le pilote, qui a besoin que la voiture réponde à ce qu'elle est lui, ça s'intègre dans la conception. Et donc le DevOps, c'est l'ensemble des pratiques, quelque part, qui permettent de faire communiquer les devs et les ops. Est-ce que j'ai...
C'est très bien. Et du coup, comment toi, tu as rencontré le DevOps, justement?
Alors, quand est-ce que j'ai rencontré le DevOps? Ça date un peu, hein, parce que c'est un courant qui a émergé, je dirais, à la fin des années 2010. Je me souviens, j'étais chez SmartVog à l'époque. Et c'est arrivé un petit peu, justement, pour arriver à faire travailler ensemble les équipes d'opération qui étaient quelque part recevaient les livrables des équipes de développement et d'arriver à mettre en place les premières CI/CD qui permettaient de faire en sorte que le développeur puisse quelque part avoir quelque chose qui teste, qui soit très proche de ce qu'on allait avoir en production. Donc je l'ai rencontré un petit peu comme des bonnes pratiques, mais ça a évolué la définition même de DevOps, puisque c'était en construction et les outils aujourd'hui, ce qu'on en perçoit avec tout ce qui est la chaîne de build automatisée. À l'époque, c'était vraiment d'essayer de trouver des solutions pragmatiques entre les équipes de dev et de run, dans la boîte où j'étais en tout cas.
Ouais, du coup, tu l'as rencontré très tôt dans l'émergence du DevOps, en tout cas dans la formalisation du nom. Hein.
Ouais, en fait, c'était un artifice de mémoire qui permettait, quand on s'adressait à un développeur ou à un mec de run, de les faire travailler dans la même équipe. C'est-à-dire qu'en fait, c'était
pas les gens qui étaient des DevOps, c'était vraiment les équipes où en fait on constituait des équipes un peu mixtes. En tout cas, nous, c'était notre approche où on allait mettre des gens qui étaient devs et des gens qui étaient ops. Et donc, on avait une équipe qui, du coup, était capable d'elle-même d'avoir la partie dev et la partie ops au même endroit, de mémoire.
Ok. Et qu'est-ce que ça a changé finalement dans ta vie, le DevOps ? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ou pas du tout ?
J'ai pas identifié ça comme étant quelque chose qui était à la croisée des chemins, un endroit où j'ai marqué ça avec le fer. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça a permis de faire changer pas mal les mentalités. C'est surtout quelque chose qui permet de faire travailler des métiers qui avant étaient parfois antagonistes. Et en fait, ça les a quelque part rapprochés. Et donc, juste utiliser les bons termes et en faire quelque part quelque chose de natif. Aujourd'hui, on n'a plus, moi je ressens plus, en tout cas quand je discute avec des gens, alors il y a l'ingénieur DevOps, encore ça c'est un sujet qu'on va pas lancer parce que ça fait pas consensus du tout, mais l'idée étant vraiment que ça permette de rapprocher vraiment ces deux univers comme la formule. J'y vois plutôt quelque chose de l'ordre de l'idée et du... Donc, ça n'a pas changé fondamentalement ma vie parce que c'est quelque chose qui me paraissait dès le départ très naturel.
Ouais, non, on va pas relancer le débat. J'ai justement fait un tweet et un post LinkedIn tout à l'heure à ce sujet-là précis.
D'accord, j'ai pas vu.
C'est pas grave. Pour rappeler le mouvement, etc., etc. Mais bon. On a déjà assez traité ça dans le podcast. Je pense que de toute façon, on sera obligé d'y revenir régulièrement sur ce poste ou pas. Moi, je voudrais qu'on parle aujourd'hui des ARM parce que début mars 2023, en fait, Scaleway annonçait le retour des serveurs ARM à la demande avec la gamme Ampère Ultra. Alors moi, ça m'a étonné parce que en 2020-2021, Scaleway annonçait justement qu'ils arrêtaient cette architecture. Pourquoi est-ce que ça a été arrêté selon toi, enfin selon les infos que tu as, et qu'est-ce que aujourd'hui nouveau ce retour ? Parce que finalement c'est encore très proche 2021-2023. Il y a un truc qui s'est passé, je pense.
Alors oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais un peu tricher pour répondre à ta question. En fait, Scaleway n'a pas vraiment arrêté l'architecture ARM parce que on a maintenu une gamme d'architecture ARM sur une plateforme qui est celle d'Apple. Et donc il y a l'arrivée des Apple M1 as a service qui sont arrivés en février 2021 qui ont permis justement de maintenir la gamme ARM. Mais par contre, je sens ce qu'il y a derrière ta question, c'est-à-dire que historiquement, Scaleway s'est construit autour le nom Scaleway qui était une division d'online au début, s'est construit effectivement autour d'une première offre qui était les C1, qui étaient des petits SOC ARM V7 qui permettaient d'avoir quasiment un ordinateur ARM à basse consommation avec beaucoup de densité et donc à très faible coût. Et ça, c'était vraiment quelque chose de moi à l'époque, je le vivais comme client, j'étais pas salarié de Scaleway, donc c'était quelque chose d'assez révolutionnaire en soi. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a eu une deuxième expérimentation avec des offres virtualisées, ça s'appelait les VCA en interne. Et à la fois les VCA qui ont été arrêtés, si je dis pas de bêtises, je vérifie mes notes en parlant, en juin. Elles ont été démarrées en juin 2017, c'est ça, et les VCA ont été arrêtées fin 2020, début annonce d'arrêt début 2020 et fin d'arrêt effectif fin 2020. Il y a plein de choses à raconter sur ce sujet-là. C'est le hardware qui a poussé effectivement Scaleway à aller vers l'ARM pour des questions de densité et de prix. Prix qui est construit par le fait que le prix du processeur était bas et que l'énergie que consommait ce processeur était plus raisonnable. Et après, avec la virtualisation avec les VCA, toujours la même équation, vouloir aller sur cette architecture-là. On a eu sur les C1, il n'y a pas eu de problématique particulière en termes de hardware. C'est un matériel très fiable, c'est un matériel qui a été fabriqué en France en partenariat avec les équipes de Scaleway. C'est juste qu'entre le début de l'idée, c'est 2011, les discussions en interne entre Arnaud de Birmingham et Grégoire de Turquen, qui sont les deux personnes qui sont à l'origine de ces machines, et le moment de la commercialisation en 2014, puis la fin de commercialisation en 2021 pour les C1, le matériel était devenu un peu obsolète au sens de sa puissance et de ce que les gens pouvaient en attendre. Néanmoins, il a fallu fermer le service avec des clients qui étaient encore dessus, sans être capable de proposer d'alternatives. Et donc là, c'est vrai que c'est pour ça que la question revient souvent de savoir pourquoi est-ce que maintenant on revient sur l'ARM. Et par contre, les VCA, qui eux ont été lancés plus tard, 2017, qui ont été fermés plus tôt, parce qu'on a eu effectivement un problème de stabilité sur le processeur. Moi, des informations que j'ai eues en interne, il y avait une vraie croyance d'être capable de résoudre les problématiques techniques sur ces processeurs via des correctifs logiciels, que ce soit firmware ou dans le kernel Linux, ce qui n'a pas été le cas et ce qui a du coup amené Scaleway à abandonner les processeurs Cavium qui étaient derrière les VCA. Donc là, ce qui se passe, c'est on a un fabricant qui est Ampere Computing qui depuis quelques années travaille sur un processeur ARM. Il y a eu un partenariat qui a été noué en 2020 avec Scaleway, donc il y a des discussions et on accompagne la société Ampere Computing sur ces nouveaux processeurs. On voit qu'ils arrivent à maturité et en fait, en milieu d'année dernière, ils sont arrivés à un stade de maturité où on s'est dit, voilà, c'est peut-être l'occasion de se relancer sur ce segment-là parce que ça consomme moins, parce que il y a aussi quelque chose qui change un peu la donne, c'est que Apple est arrivé sur le marché en amenant, en quelque part, en faisant de l'ARM, non pas ce que la plupart des gens en avaient l'habitude, c'est-à-dire une architecture pour les téléphones portables qui était efficiente. Elle consommait le rapport entre, quelque part, la capacité de calcul et l'énergie consommée par le processeur était bonne. Mais là, on a quelque chose, dans le cas des téléphones, qui est limité à de la puissance, on va dire, petite, alors que dans le monde des serveurs, dans le monde des data centers, souvent on va essayer de faire tourner des algorithmes, des calculs qui sont plus, quelque part, la recherche de la puissance et de la vitesse maximum de traitement est le point important. Et donc on a tendance sur du x86 à délaisser l'aspect énergétique. Ça vaut bien quelque part, le calcul vaut bien l'énergie consommée. Et là, l'intérêt, c'est que la position marché de ce processeur, c'est de se dire, on va aller permettre d'attaquer des calculs compliqués, longs, puissants, en essayant d'avoir l'efficacité énergétique, le rapport entre le calcul et la consommation d'énergie, de ces fameuses puces ARM qui sont un peu plus intéressantes. Et Ampere sort des processeurs aujourd'hui avec 128 cœurs, 3 GHz, garantie, chaque cœur est capable de tourner à 3 GHz. Et en fait, quand on a vu ça sur le papier, on s'est dit, bah, il y a peut-être un truc à faire, nos clients, ça peut les intéresser, ça peut-être justement être un vecteur d'intérêt pour avoir quelque chose de plus raisonné en consommation énergétique, pour rebondir un petit peu sur ton point d'introduction.
Oui, merci. Du coup, justement, on va parler un peu de ces processeurs. En fait, dans l'article de blog, il est indiqué donc que la gamme AMP2, qui est la gamme du coup de serveurs basés sur ces processeurs, elle n'est pas destinée aujourd'hui à la production, elle bénéficie pas du niveau de support traditionnel, et donc c'est bien précisé, ne peut pas être adaptée aux charges de travail critiques. Est-ce que ce disclaimer il est fait parce que c'est encore une bêta en cours? Et aussi, la deuxième partie de la question, c'est quels pourraient être les usages actuels de la gamme selon vous, justement?
Alors, c'est un disclaimer. Il faut savoir qu'au sein de Scaleway, moi, je suis responsable de la R&D. En particulier, je suis en charge de ce qu'on appelle les Scaleway Labs. C'est une entité, une division de Scaleway qui se charge justement de faire un petit peu des opérations sur des sujets un peu plus risqués. Donc, on est là pour prendre un certain nombre de paris et de risques et d'essayer de les valider avec une approche plus expérimentale qu'une approche produit classique. Et ce disclaimer, il est sain au sens où on a essayé d'aller au plus vite pour amener cette innovation à nos clients et en la validant de façon à ce que on fait passer des tests en laboratoire, on industrialise à minima la chose pour s'assurer d'avoir un SLO identique à ce qu'on va faire avec les autres offres. Donc ce qu'on met pas et ce qu'on dit, c'est que la SLA effectivement n'est pas garantie, dans le sens où comme on n'est pas sûr à 100%, on veut pas mettre les gens en difficulté en leur disant, écoutez, allez-y les yeux fermés. Donc, on n'annonce pas de SLA. En interne, les SLO sont les mêmes. Les équipes qui opèrent, les plateformes sont les mêmes. La stack technique et le logiciel dessus sont les mêmes. Et on est intégré avec les plateformes de production. Mais pour des questions d'expérimentation, de savoir aussi comment est-ce qu'on construit ces offres-là. On a préféré prendre un chemin plus rapide. Ça permet de moins se poser de questions, ça permet de délivrer de la valeur à nos clients plus rapidement. C'est quelque chose qu'on a voulu inaugurer avec ces processeurs en Pérec. Donc aujourd'hui, on a assez heureusement les clients on a un très bon taux d'utilisation, c'est-à-dire que on a fêté entre guillemets les 92% d'utilisation du matériel à mise à disposition il y a vendredi. Ce qui est assez intéressant dans les usages qu'on voit, assez étrangement, il y a deux gros patterns qui se démarquent. Il y en a un avec des petites VM, donc ceux qui ont un cœur quelque part et qui cherchent en fait à avoir quelque chose d'assez, on pense, efficient économiquement. Par contre, on a aussi beaucoup de clients qui prennent des machines avec beaucoup de cœur. Et ça, c'est intéressant parce que dans les informations, alors chacun, faut bien voir que ce que les gens font de leur machine, c'est un peu comme la net neutralité pour les réseaux. Les cloud providers n'ont pas de moyens de savoir exactement ce que vous faites sur vos machines. Donc ce n'est que par le truchement d'un dialogue avec eux et des informations qu'ils veulent bien nous partager qu'on peut avoir une idée de ce qu'ils font tourner sur leur machine. Là on a un client qui fait tourner du traitement d'image. Lui concrètement il fait tourner, alors c'est pas de l'AI, hein, c'est des filtres à lui, et donc il fait de l'analyse d'image sur ces machines là il nous en a pris beaucoup et on voit que ça carbure, il en est très content pour l'instant. On a un certain nombre d'autres usages assez classiques en informatique. En réalité, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose qui se dégage, en tout cas pour l'instant. On n'a pas d'identification d'une niche particulière. On voit que tout fonctionne. On n'a pas d'incident de production. Par exemple, ce qu'on peut dire, on a ouvert le 15 mars. On n'a pas eu un seul incident de production sur ces machines. Ça, c'est déjà très, très positif. Et les usages, ils sont assez comparables de l'extérieur à l'ensemble des gammes qu'on a General Purpose.
Ouais, on va pas rentrer dans le détail des OS et de l'architecture. Je sais qu'on en avait parlé en préparant l'émission. Est-ce que justement, vous sentez une demande du marché? Alors, ce que tu as dit, c'était super intéressant parce que du coup, je voyais pas une entreprise comme Scaleway qui est à cheval entre le logiciel et le hard, itérer comme ça, comme une start-up, mais du coup, vous le faites, donc c'est super bien. Et est-ce que, je repose la question, du coup, est-ce que vous sentez une demande du marché pour ce type d'architecture ou ce type de petit serveur économique et écologique?
Alors, oui, il y a deux demandes. Alors, la question déjà, c'est comment est-ce qu'on sent le marché? C'est très compliqué de sentir le marché. On a une division produit qui est en train de préparer la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait l'expérimentation et qu'on a des premiers retours matériels. On sait que le matériel tourne, on a plusieurs architectures, ça fonctionne bien, on a fait des hypothèses. Il y a des points qui sont validés, d'autres peut-être à retravailler. Mais le sentiment marché, on avait avant même de lancer l'expérimentation interrogée, on s'était déjà rendu compte que nos anciens clients, ceux de la base ARM et qui voulaient le retour de l'ARM, étaient déjà très, très demandeurs sur ces sujets-là. Ce qu'on a identifié, c'est deux types de clients pour l'instant, ceux qui cherchent effectivement à utiliser le côté prix. Donc c'est des gens qui vont chercher à ce que le fait que quelque part le kilowattheure a un coût et que la consommation en kilowattheure du processeur est limité, fait que si le cloud provider joue le jeu, il va réimpacter cette économie d'énergie dans son coût et dans la location quelque part du produit. Le deuxième type de clients qu'on a vu, c'est des clients qui vont chercher à avoir beaucoup de traitements en parallèle. C'est-à-dire que une des forces des processeurs dans Ampere Computing, comme je disais, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 128 threads, 128 cœurs d'exécution, indépendants les uns des autres, à 3 GHz en permanence. La faible consommation énergétique du processeur permet en réalité de pas avoir ces problématiques qu'on peut retrouver sur d'autres processeurs de downclocking lié à la température qui est limitée globalement la dissipation thermique des processeurs. Et accessoirement, il n'y a pas de système de threading, donc les problématiques de sécurité qu'on a pu voir avec des systèmes de timing entre les threads, c'est des choses qu'il n'y a pas non plus. Donc, là, pour l'instant, ce qu'on voit en termes de demande marché, c'est beaucoup, j'ai besoin de faire du calcul parallélisé. Et donc là, il y a de l'IA, il y a tout un tas de champs qui sont interrogés par cette capacité-là et la capacité prix. J'ai pas encore identifié, même si je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant en termes de vertu, c'est-à-dire le côté, on va pas dire vert, mais ça coûte du coup moins cher, mais ça coûte moins cher parce que ça consomme moins. Et j'ai encore personne qui est venu me voir en me disant j'ai vraiment envie de passer sur ARM parce que c'est bon pour la planète. Ça, je t'avouerai que j'ai personne qui est venu me dire ça. En tout cas, nous, on a fait en sorte de raconter, de se mettre dans une dynamique où si quelqu'un veut faire ça, il sait que nous, on est dans cette dynamique-là, puisqu'on a placé pour l'instant cette expérimentation sur notre data center de DC5 par deux, qui du coup, c'est celui qui a le meilleur PUE de nos data centers et qui a un refroidissement qui consomme moins d'eau que le reste des data centers du marché. Donc, on a essayé, tu vois, pour cette expérimentation, de mettre notre rack d'essai, nos racks d'essai, à l'endroit où ça pouvait permettre justement de favoriser cette volonté de prendre des décisions astucieuses pour notre avenir.
Oui, merci, c'est très très clair. Je me demande s'il va pas bientôt manquer de place dans ce data center là, parce qu'à force d'y mettre des trucs, en tout cas j'espère que s'il va manquer de place, vous allez en construire un comme ça bientôt. Mais bon, rassure-moi, il y a encore un peu de place.
Pour te répondre là-dessus, c'est assez marrant, j'en discutais un petit peu avec Yann et avec Arnaud fut un temps, et ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'au début, ils avaient du mal à vendre le data center de DC5 parce que la technologie qui est utilisée, l'évaporation de l'eau pour justement refroidir l'air, c'est quelque chose qui était à la fois les investissements des sociétés qui rentrent dans un data center et qui y mettent du matériel, c'est beaucoup d'argent. Et donc, il faut faire ça en étant sûr que pour une raison qu'on ne maîtriserait pas, le data center va pas se mettre à ne pas respecter ses normes de température ou va quelque part mettre en difficulté le business pour lequel on l'a amené dedans. Et donc, c'est très, il y avait une frilosité du fait de cette nouvelle technologie. Et bah c'est un peu comme tout, hein, quand ça commence, on voit qu'il y a des gens qui arrivent, on voit que ça fonctionne, on comprend, c'est solide, ça tient, bah justement il y a un engouement. Donc effectivement, DC5 se remplit bien. C'est pas encore plein, mais
ça me rassure parce que nous, ça fait partie de nos arguments auprès de certains de nos clients, puisqu'on fait aussi de l'infogérance et on met nos serveurs sur DC5. Donc ça me rassure de savoir qu'il y a encore plein de place pour nos serveurs.
Et donc, il y a encore plein de salles qui ne sont pas construites. Ouais.
Alors, on doit ces serveurs ARM en partie à Scaleway Labs. Donc, c'est toi qui as créé justement cette équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette équipe? Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est quoi finalement le rôle de Scaleway Labs au sein de Scaleway?
Alors, Scaleway Labs, c'est une division de recherche et développement au sein de Scaleway qui a pour mission un petit peu d'aller travailler sur des sujets à plusieurs niveaux de risque. L'idée, c'est d'avoir une agilité au niveau de la création d'équipes, on appelle ça en interne des équipages, des crews, qu'on mobilise sur des sujets qu'on a envie d'explorer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez léger, un peu comme un conteneur dans l'univers de l'informatique, qui nous permet d'aller constituer une équipe composée de personnes qui ont des compétences sur le sujet qu'on veut adresser, et d'explorer avec une méthodologie qui est adaptée justement à l'exploration et au fait de pouvoir arrêter. Et donc la chose la plus difficile, c'est d'avoir renoncé effectivement à une exploration qu'on a lancée, surtout qu'on a envie que ça marche, et donc d'être capable de s'arrêter en disant bon, ce sujet-là, c'est peut-être pas pour maintenant, peut-être ça sera pour plus tard. Donc les Scaleway Labs, c'est un peu moins d'une quinzaine de personnes aujourd'hui, et on a pris le sujet des processeurs Ampère et Altra sous cet angle-là, en se disant que on allait le prendre comme un sujet où on allait tester le matériel, vérifier que ça fonctionne, prendre des hypothèses et avancer comme ça au fil de l'eau jusqu'à ce qu'on se mette dans une situation où soit on en faisait une expérimentation publique et on partageait quelque part le résultat de ce qu'on avait fait plus largement et on pouvait avoir des retours sur cette expérimentation, ce qu'on a décidé de faire, et ce qui va nous permettre de quelque part de conclure ce rapport de recherche de façon un peu plus concrète que si on était resté que dans un laboratoire. Voilà.
Eh ben merci. Du coup, ça m'amène une autre question. Puisque vous êtes dans un mode recherche et développement, si votre recherche donne pas les résultats que vous voulez, si ça échoue pour vous, et que ça ne sert pas du coup votre business, est-ce que vous avez envie de rendre vos recherches libres?
Alors oui, déjà c'est un point très important. C'est ce que je dis moi beaucoup en interne. C'est il n'y a pas de succès sans échec au préalable, et le succès se construit par l'échec consécutif. Et donc en fait, le mot échec, qui est assez connoté négativement, surtout en France, est en réalité le chemin nécessaire à la découverte et à être capable d'amener quelque chose de nouveau ou de plus disruptif dans nos environnements. Mais ce qu'il faut bien être conscient, c'est que essayer, c'est pas du temps perdu, parce que souvent, ce qui est mis en avant, c'est vous avez perdu votre temps. Non, on n'a pas perdu notre temps, parce que si on documente à la fin, si justement on est capable d'écrire pourquoi ça n'a pas marché, ou pourquoi nous n'avons pas été capables de faire quelque chose qui marche. Des fois, la problématique est simplement par la méthodologie, les prismes, les biais. Et donc, documenter ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui peut inspirer d'autres personnes à être meilleures. Et ta question, c'est plus, est-ce qu'on va le rendre libre? Oui, c'est l'objectif. Pour l'instant, on est... Alors, c'est pas forcément facile de faire écrire des ingénieurs. C'est pas... Donc, la notion de « on a travaillé sur un sujet, publions-le », je pense que c'est très sain, c'est très vertueux. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire, ça fait partie très clairement de nos objectifs en interne, avec sûrement deux phases, une diffusion interne puis une diffusion plus large après, sous licence libre idéalement. Donc oui, ça fait partie du plan très clairement de communiquer sur ce qu'on fait.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah. Ce qu'on a réussi ou pas, d'ailleurs.
D'ailleurs, ça me fait penser, mais nous, on fait aussi de la R&D, on demande des crédits d'impôt innovation. Je pense que tu connais crédit impôt innovation, crédit impôt recherche. Ça nous oblige, nous, à écrire des choses pour, justement, l'État. Et je vois très bien ce que tu dis quand on n'a pas l'habitude. Alors, moi, je ne suis pas ingénieur, mais je suis tech. Donc, du coup, écrire ce qu'on fait et le décrire, pour des gens qui sont pas tech, c'est hyper dur, mais c'est super intéressant. Pour le coup, ça t'oblige à te poser des questions, je trouve.
Ça oblige à poser des questions et expliquer ce qu'on fait, c'est une façon extrêmement puissante de s'obliger à être sûr qu'on ait bien compris. Souvent, moi je vois même en interne, on commence à travailler sur un sujet et quand on commence, on a un système justement pour se dire savoir si on avance vraiment dans le bon sens, on a un système de black hole pour savoir si on arrête ou pas le projet. Et donc au moment où ces points d'étape sont déclenchés, il faut être capable de produire un explicatif à un tiers qui est pas au quotidien dans le cambouis. Il faut du coup vulgariser au sens noble du terme l'endroit de la recherche et le rendre accessible pour que justement on se rende compte. Des gens qui sont pas dans l'expérience sont capables de dire oui ou non, il faut continuer. Oui, ça a du sens de prendre du temps, de l'énergie, de l'argent à avancer sur ce sujet-là. Bah, le moment où les équipes, on leur demande de faire ces présentations et ces documentations, c'est là où on voit, quand on les fait, quand on les relit, quand on travaille avec eux, que écrire, expliquer, ça oblige à mettre de l'ordre dans sa pensée. Donc, c'est très, très salutaire. Au-delà de la partie rébarbative des documents du crédit impôt recherche, dont tu fais part.
Oui, c'était juste à parallèle. C'est pas exactement la même chose, c'est sûr, mais ça nous force à écrire. Moi, je me posais la question, ça fait longtemps que je m'en pose, est-ce que pour les équipes du data center, ça fait une différence justement de gérer des serveurs AMD 64 ou des serveurs ARM ou pas du tout en fait ?
Non, aucune. Pour les gens qui sont dans les data centers, donc si on parle des artisans qui construisent les serveurs, la partie supply qui déplace les machines et qui les dépose dans les data centers, les équipes d'essai qui s'occupent du refroidissement, de l'induction électrique, des normes incendies, c'est un processeur différent, c'est très standardisé, hein, ça fonctionne exactement pareil. Je pense qu'ils ne savent, que ça soit dedans un GPU, un QPU c'est différent, un GPU ou que ça soit de l'ARM ou pas, aujourd'hui le form factor est le même, c'est des U, il y a des grands constructeurs, c'est très semblable. En tout cas, il n'y a eu vraiment aucune problématique sur ces châssis-là en interne, c'est standard, il n'y a vraiment rien de différent.
Du coup, j'imagine que ça change quand même quelque chose au niveau logiciel, API et tout ce que vous faites à travers la console et des divers clients, en fait.
Écoute, même pas. Assez peu, en réalité. Il y a des différences sur les... On a eu un certain nombre de problèmes avec les BMC, effectivement, mais qui sont même pas liés, si tu veux, à l'ARM en soi, parce que le BMC, ça a toujours été de l'ARM, soit dit en passant, depuis très longtemps, même sur du X86. Donc, il y a assez peu de différenciation. Ce qui va changer, par contre, c'est toutes les images d'installation. Les OS sont pas. En fait, tous les binaires qui s'exécutent sur ces machines-là sont des binaires compilés pour de l'ARM 64. Donc, il faut que les repos, les fermes de logiciels soient disponibles. Enfin, les versions binaires des dépôts. Comme tu le sais, par exemple, on a mis un certain nombre d'OS à disposition sur ces machines. Moi, je suis développeur Arch Linux. Arch Linux n'a pas de version officielle ARM. De sa distribution, et donc on n'a pas pu d'ailleurs proposer Arch Linux, tu vois, par défaut sur ARM, soit sur les ARM2. Bon, c'est comme ça. Mais non, globalement, c'est assez similaire. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, tu vois, de l'écosystème Apple. C'est-à-dire qu'on parle des Mac M1. Comme à un moment, je suis utilisé ça pour te dire qu'il y avait quand même un peu d'ARM chez Scalway. J'essayais de noyer un peu le poisson, mais là, pour le coup, l'écosystème n'est pas du tout le même. Et donc l'interconnexion. Et le travail qui a dû être fourni par Scalway au moment de la réalisation de la mise en data center de Mac Studio n'est pas la même histoire, puisque on parle d'un ordinateur qui est à la base conçu pour le bureau, qui est pas fait pour supporter des vibrations, ou même qui a une façon d'appeler le courant quand on l'allume qui est pas la même du tout. Là, on est sur quelque chose de, c'est des serveurs Ampere Computing avec HPE, Gigabyte, ils font un travail remarquable pour avoir du matériel fonctionnel classique. Donc cette partie industrialisation s'est assez bien passée, réellement.
Bon, c'est cool alors. Si on parle un petit peu du design des rack serveurs dont tu as parlé, ça se passe comment, le design, avec votre partenaire, qui s'occupe de quoi? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe.
Alors, qu'est-ce que t'appelles le rack design pour être pour
C'est le design d'un serveur. Quelle RAM je vais mettre, combien de RAM je vais mettre, combien de puces je vais mettre, quelle carte mère je choisis, combien je mets de cartes réseau, etc., etc. Tu vois, tout le design de ton rack complet. Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que c'est Ampere qui le fait? Il vous fournit des racks tout faits? C'est ce genre de questions.
Ok. Non, alors Scalway, on a le savoir-faire et la chance justement de pouvoir faire ça nous-mêmes. On va consulter en fait on va avoir un certain nombre de fabricants qui vont proposer des processeurs, des cartes mères, de la mémoire, des disques durs. Et nous, notre savoir-faire, c'est de trouver les meilleures combinaisons. Et donc ça, c'est vraiment les équipes de Scalway en interne qui font ça, d'être capable de les assembler. Hein. Comme je te disais, on a des artisans qui assemblent les pièces détachées pour en faire un serveur. En fonction, j'ai envie de te dire, de la maturité des fournisseurs, des fois on peut être amené à acheter des choses pré-assemblées, d'autres qui le sont moins. Là, dans le cas d'Ampere, c'est nous qui avons assemblé les processeurs sur une partie. La RAM, c'est de la RAM qui est compatible d'ailleurs, hein, c'est la même RAM que sur X86, il n'y a pas de différence. Donc le design au sens de la réflexion et des choix techniques sont faits par Scalway, le nombre de serveurs qu'on va mettre par baie, ça c'est le nerf de la guerre, hein, parce que de tous ces choix découle le prix qu'on est capable d'offrir à nos clients. Plus on va avoir un design smart, bien conçu, bien léché, plus on va être capable d'avoir des prix agressifs auprès de nos clients. Et aussi, on parle, tu vois, un point qui, moi, me blesse, enfin, pas me blesse, mais on est obligé par transparence de dire qu'on fait pas de SLA parce qu'on est dans une dynamique, justement, d'expérimentation. Par contre, quand tu mets des serveurs en data center, t'as plein de choix techniques, comme le fait de savoir, dans les data centers, t'as deux alimentations électriques, t'as deux lignes électriques différentes avec des circuits disjoints pour être capable, justement, de pallier à une défaillance d'un circuit. Nos serveurs sont double alimentés électriquement. Donc, on va avoir un choix qui est d'avoir deux alimentations électriques avec deux lignes complètement séparées sur chacun des serveurs qu'on met à disposition. On va avoir la même chose au niveau du réseau avec deux alimentations réseau, deux inductions réseau avec des switches séparés qui permettent justement de pallier à une défaillance du matériel. Au niveau du disque dur, c'est pareil. Au niveau des disques durs qui sont locaux, alors on n'a pas activé les fonctionnalités dislocales sur les ARM2, mais c'était prévu pour pouvoir le faire. Et si on le faisait, on avait des disques avec du RAID qui nous permettaient justement de pallier à une défaillance matérielle de façon à ce qu'on puisse remplacer ces disques à chaud sans que le client voit d'interruption. Donc, bref, je te dis que la SLO est très proche de ce qu'on peut proposer par ailleurs. On est dans un design qui se veut le plus proche de ce qu'on va proposer à nos clients sur la version finale, ou en tout cas ce qu'on en projette aujourd'hui de la version finale des offres ARM chez Scaleway.
Ok, et du coup, en termes de place et d'énergie consommée, ces serveurs-là, ça a quel gain pour vous par rapport à des serveurs classiques ?
Bah c'est le côté un peu sympathique. Il faut savoir que là on a fait des choix. Donc il y a plusieurs gammes de CPU chez Ampere. Nous on s'est arrêté sur des M2830, donc c'est 128 cœurs 3 GHz. C'est des processeurs avec la machine tout compris, ils prennent un U. Donc ça c'est l'unité standard qu'on met en data center. Sur un U on a 128 cœurs à 3 GHz et la consommation totale de la machine en pointe est inférieure à 350 watts. Du coup, on est sur quelque chose d'extrêmement... déjà, tu t'en mets une dizaine, tu es à 3500 watts, tu te rends compte assez rapidement que tu peux remplir ta baie avec qui a une cinquantaine de U. Tu vas pouvoir densifier énormément. Donc, tu vas rentrer dans des problématiques qui sont des problématiques de portance. C'est-à-dire que dans les choses qu'il faut considérer en data center, c'est l'énergie. Donc, à la fois la consommation énergétique d'entrée, mais aussi la dissipation thermique. C'est un gros radiateur, un ordinateur. Tout ce qui rentre est transformé en énergie thermique. Et donc, la partie, que ça soit entrée et sortie énergique, c'est un des premiers problèmes. Mais quand on arrive à bien densifier en ayant des baies à plusieurs dizaines de kilowatts, on se retrouve à avoir une problématique de portance des planchers. C'est-à-dire qu'un data center, c'est beaucoup, beaucoup de poids, et donc on a une limitation à ce niveau-là, au niveau de la portance. Donc ce que permet les processeurs, l'architecture ARM et les solutions d'Ampere, c'est d'arriver à densifier un maximum les emplacements en data center et les baies. On a moins de baies vides qu'on peut voir traditionnellement.
Bah, du coup, faut faire attention au poids quand même, pas en mettre trop, parce que sinon tu traverses ton plancher.
C'est ça, c'est le savoir-faire des gens qui conçoivent les DC. On a la chance en interne d'avoir les équipes de conception DC qui sont au premier étage et qui s'assurent de tout ça.
Du coup, c'est des serveurs parfaits en fait pour des C5, puisque comme justement il n'y a pas de climatisation, c'est l'endroit parfait pour les mettre par rapport à des C3, où justement vous allez les mettre, si vous les mettez à des C3, dans des salles qui sont déjà climatisées, vu qu'il n'y a pas forcément besoin de les refroidir plus que ça. Est-ce que justement à l'avenir, dans les data centers, si vous allez créer des data centers spécifiques où vous n'êtes même pas encore posé ce genre de questions?
On n'est pas sur c'est pas du sans refroidissement. Il faut assurer une température. Il y a du refroidissement sur les processeurs Ampere. C'est juste qu'ils arrivent à maintenir. Ils consomment moins, donc ils génèrent moins de chaleur, et donc c'est plus facile quelque part de maintenir la température au sein de la salle. Dans ta question, il n'y a pas d'ordinateur idéal. C'est une avancée technologique qui nous permet, avec deux choix possibles, soit on en met moins et on génère moins de chaleur, on consomme moins, soit on en met plus et on consomme mieux. Donc les salles des data centers sont dimensionnées, crois que c'est 2 mégawatts par salle, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, mais ça permet de mettre plus de machines, ça permet du coup de faire plus de traitements et ça permet de les faire mieux. C'est une façon, c'est une technologie qui va vers la consommation et améliorer le quelque part le rendement, j'ai envie de dire presque, qu'on peut voir.
Oui, et puis réduire la place que va prendre un data center dans une ville, parce que mine de rien, si on continue à grandir, les data centers vont commencer à prendre beaucoup de place.
Oui, oui. Après, il y a des grosses annonces là. Si on lit un peu la presse, de gros data centers qui sont construits aux États-Unis. L'ARM est une solution effectivement qui est intéressante en termes de rapport. La partie GPU, Nvidia, l'est un peu moins.
Ok. Est-ce que justement des serveurs comme ça, ça peut avoir une durée de vie longue? Alors moi, dans ma question initiale, c'était supérieur à 10 ans, mais en gros, est-ce que ça peut avoir une durée de vie plus longue? Est-ce que vous allez les réutiliser? Est-ce que vous avez déjà pensé à la fin de vie de ces serveurs et comment les revaloriser à terme?
Alors, bien heureux est celui qui peut prévoir le futur. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, les C1 ont duré extrêmement longtemps. Il n'y a pas eu de panne de matériel. Ils n'ont pas été arrêtés pour des problématiques de matériel. Je ne pense pas que quelqu'un puisse dire que l'architecture ARM, pour une raison quelconque, durerait moins longtemps que les architectures x86. Hein. Les procédés de gravure et de fabrication sont les mêmes. On a toutes les raisons d'espérer des durées de conservation identiques à ce qu'on peut trouver sur du x86. Ce qui veut dire qu'on est largement sur les 10 ans en termes de matériel. Je sais qu'Ampere, pour en avoir discuté un peu avec eux, ont une politique qui m'avait assez plu, c'est qu'on n'a pas d'ailleurs peut-être avec Apple, c'est le cycle de vie des processeurs. Leur objectif n'est pas tous les ans de sortir un processeur nouveau, plus puissant, qui viendrait rendre le précédent obsolète, mais plutôt de s'inscrire dans la durée, et donc d'avoir des processeurs sur lesquels ils vont être capables de proposer du support pendant un long moment, et d'être capables de permettre à des gens comme nous, du coup, d'investir sur ces gammes de processeurs, et donc de les faire perdurer dans le temps. Scaleway a sur la durée de vie des serveurs, je suis assez fier de ça, donc ça me permet d'en parler, mais je sais que les équipes data, opérations et data center ont un programme en interne justement de prolongation de la vie d'un certain nombre de serveurs. C'est quelque chose qui est assez peu mis en avant par Scaleway, mais il y a certains processeurs qui sont encore demandés aujourd'hui et sur lesquels en fait on prend les machines, on va retirer les composants qui ont un peu vieilli, on va remettre potentiellement des SSD à la place de disque dur, on va grader la quantité de RAM et on va être capable de les réinjecter pour leur donner un nouvel essor et une nouvelle vie et donc créer des gammes qui vont être basées sur du matériel. Et donc ça a un vrai impact en termes de justement on va dire vertu écologique et empreinte énergétique sur la planète. Est-ce que l'ARM durera plus longtemps ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on espère que ça va durer aussi longtemps que le reste. On n'a pas de raison de douter de ça.
En tout cas, j'espère que comme ça consomme moins, que ça chauffe moins, ça puisse durer plus longtemps parce que ça s'use moins. En tout cas, c'est ce que j'espère avec ce genre de puce. Et comme tu le dis, on manque encore de recul. Alors, je vais te poser une question, je ne sais pas si tu veux me répondre, mais en tout cas, je vais la poser. Est-ce que Scaleway envisage déjà de faire des services managés à base d'ARM, typiquement des bases de données, du K3S, etc., etc., qui soient basées sur l'offre ARM, justement?
Alors, la réponse est Scaleway, oui, les labs aussi, et on a même écrit un article de blog sur le sujet je crois qu'il est publié mais pas encore à la une, qui est justement de permettre à nos utilisateurs d'utiliser Cosmos, donc qui est la solution Kubernetes, une des solutions Kubernetes managées de Scaleway, qui permet d'avoir des data planes qui sont pas chez Scaleway. En gros, l'idée, c'est que vous avez votre contrôle plane chez Scaleway et vos data planes peuvent être chez OVH, chez Scaleway, chez whatever provider qui vous plaît, et surtout, j'espère, chez vous. Cette solution-là permet dès aujourd'hui d'utiliser des nœuds ARM2 pour faire justement de l'ARM. Donc on a fait un petit tuto de blog, j'ai un ingénieur qui s'est amusé à faire ça, et qui du coup a fait tourner via Cosmos des patterns sur les AMP2. Donc ça c'est déjà faisable. L'intégration d'Encapsule est prévue. Pour l'instant, c'est les équipes qui s'en occupent et elles ont déjà commencé le travail dessus, donc ça devrait plus être très long. Après, c'est des cycles produits plus classiques. Après, dans ta question, il y a un truc qui est très intéressant, il y a deux types de services. Il y a les services managés qu'on propose à nos clients. Et donc là, oui, très clairement, avec Capsule, on va faire une démarche permettant aux clients d'utiliser des machines en ARM. Il y a une deuxième chose qui est souvent moins visible et qu'on sait que nos amis américains font aussi, c'est que pour fournir du service managé aux clients, il y a plein de services internes qui sont exécutés pour justement supporter quelque part l'infrastructure. Et là, il y a un vrai intérêt en interne. C'est plus facile en plus, puisqu'on maîtrise en général plus facilement les chaînes logicielles qui sont sur ces machines-là, de faire passer un certain nombre de solutions vers justement des architectures qui consomment moins. Donc la question est, la réponse est très clairement oui. Scaleway a envie quelque part d'aller sur ces architectures-là pour réduire sa facture des services, on va dire internes, qui permettent aux clients d'utiliser des services managés. Tu parles de la base de données. Quand tu fais une connexion SQL à une machine, qu'elle soit sur de l'ARM ou du x86, c'est transparent pour toi.
Ce qu'il faut, c'est que le moteur de base de données puisse tourner sur de l'ARM, lui.
Oui, et heureusement, merci au C, hein, qui est un peu vieux, merci aux langages comme ça, qui ont à l'époque abstrait la compilation multi-architecture. C'est quand même aujourd'hui assez facile d'avoir des logiciels qui marchent sur ARM. C'était moins le cas en 2014, et c'est pas encore le cas en RISC-V.
Ouais, je me rappelle, parce que moi je suis développeur C à l'origine, en fait, je me rappelle qu'à l'époque, on passait d'une plateforme à l'autre, donc d'AX, de Sun, etc. Et donc on était obligé de recompiler et de faire quelques ajustements, mais en effet, ça fonctionnait.
Ouais, moi aussi j'ai des souvenirs douloureux de ça, de l'école, où on était obligé des fois de rendre des projets sur six architectures différentes et ils n'avaient pas les mêmes tailles de int. C'était la guerre. Mais très bien. C'est des bons souvenirs en même temps.
Alors, j'ai une dernière question pour toi avant de passer à mes questions de clôture. C'est, est-ce que, juste parce qu'on vient de parler longuement d'ARM, est-ce que vous vous êtes penché sur les puces libres que sont les RISC-V?
Alors, oui, on s'y penche, on s'y est penché. Pour l'instant, on regarde. Voilà.
Vous regardez. Tu peux pas en dire plus que ça, de pourquoi vous regardez de loin ou pas, ou est-ce que c'est le fait que ce soit encore assez jeune, que l'écosystème logiciel soit pas au niveau de l'ARM?
Je pense que c'est un vrai sujet de R&D. Par contre, c'est parfaitement pour nous. Je pense que c'est en tant que R&D, c'est vraiment là où on doit être. En termes d'Européens et de Français, il y a un vrai sujet sur la nature du contrôle de l'architecture des processeurs et le fait d'avoir une architecture ouverte, non propriétaire. On a vu récemment des annonces de la société ARM sur sa rentrée en bourse et des augmentations de frais de licence. Tout ça, ça pose des questions sur à la fois le modèle économique et aussi sur la souveraineté au sens d'être capable d'être sûr que les solutions qu'on propose vont perdurer et sont saines pour les gens qui les utilisent. Une architecture ouverte de processeurs, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui serait vraiment salutaire pour toute l'industrie. C'est de ce que moi j'en sais aujourd'hui, c'est pas encore mature. Après, c'est un vrai sujet chez nous d'être capable d'être prêt quand on va commencer à avoir des fondeurs ou des gens qui sont capables de produire des puces ARM, des puces RISC-V, pardon, et éventuellement de les proposer. Donc, j'aimerais beaucoup arriver à faire ça bientôt.
Ouais, ce serait vraiment bien. Moi, je crois beaucoup aussi à ça. Je trouve que l'écosystème est encore beaucoup trop jeune. Déjà, l'ARM, c'est jeune aussi. Et en plus, l'AMD64 est trop répandu aujourd'hui. Mais je pense que dans les années à venir, on va peut-être avoir des surprises.
Après, il y a un challenger, hein, le WebAssembly, qui n'est pas... Faut voir. Hein.
Faut voir. On en parle de temps en temps du WebAssembly. Je ne l'ai pas encore regardé de plus près que ça. Alors, ouais, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as un livre, un article ou une conférence, enfin bref, une ressource de manière générale à conseiller à nos auditrices et auditeurs ?
Un livre, alors je ne suis pas un grand lecteur.
Ça peut être n'importe quelle ressource ou un article ou quoi.
Un article, si je peux quand même. Un livre, pardon. J'ai un livre qui m'a plu quand j'étais un peu plus jeune, qui s'appelait Il était une fois Linux, qui est pas une biographie, mais un peu un livre qui explique l'histoire de Linus Torvalds et comment est-ce qu'il en est amené à créer Linux. Et ça m'a beaucoup inspiré le jeune moi à justement m'orienter plus vers des technologies ouvertes. À participer modestement aux communautés open source. Et des ressources non informatiques, je peux conseiller les chaînes YouTube. J'ai vraiment adoré, je trouve que YouTube, il y a de tout, mais il y a surtout des trucs géniaux. Je pense à ScienceClick, par exemple, qui est un vulgarisateur de physique. Moi, ça m'a réconcilié avec mon prof de physique de maths sup. Ça m'a permis de vraiment réapprécier les problématiques de physique avec des vulgarisations, sciences étonnantes aussi de David Louapre. Il y a deux chaînes comme ça qui sont très bien. Étienne Klein, la conversation scientifique. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu. Ça, c'est une radio, c'est un podcast. Tu vois, c'est le rare. Je sais que je suis pas très podcast, mais la conversation scientifique, c'est un podcast que j'écoute de temps en temps et qui me fait du bien.
Eh ben, merci, j'ai noté tout ça. Je trouverai les liens, je les mettrai en description, comme d'habitude. Si on veut te retrouver ou si on veut discuter avec toi, où est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux?
Ouais, c'est assez. Enfin, j'ai un site, c'est blue.net, sur Twitter, sur Mastodonte. C'est pas très compliqué de m'envoyer un. Je pense que le mail, moi je suis très mail. Un mail, c'est parfait. Un Twitter, si vous voulez m'apostropher publiquement.
Ton adresse email est sur ton blog?
Elle est sur mon site, ouais, c'est sablu@sablu.net, hein, c'est pas compliqué. C'est même ce que vous voulez @sablu.net. Donc,
bon, bah écoute, de toute façon, je vais mettre le lien de ton blog, ton Twitter et ton LinkedIn, comme ça, si les gens veulent te contacter, ils pourront. Moi, je te remercie en tout cas pour ta disponibilité et pour toutes ces réponses, c'était super intéressant. J'espère que ça va fonctionner et que l'ARM va revenir. Très très fort chez Scaleway.
Merci pour ton temps.
Ben, je vais te laisser un petit mot de la fin avant de faire ma petite clôture.
Un petit mot de la fin. Merci pour le moment. C'était intéressant. C'est mon premier podcast. Hein. C'est la première fois où je m'exprime comme ça publiquement. C'était agréable. Je trouve que l'ambiance est chaleureuse. J'espère que ça intéressera les auditeurs, les sujets qu'on a abordés. Et puis voilà. Eh ben, merci à toi.
J'espère aussi que notre auditrice ou notre auditeur qui nous écoute a apprécié. S'il a apprécié, je suis sûr qu'il va nous laisser un message sur toutes les plateformes. Mais surtout, moi, ce que j'ai à te dire, à toi qui écoutes, tu peux rejoindre la communauté des compagnons du DevOps parce que ce podcast ou la chaîne YouTube, c'est un tout. Et donc, il y a un forum de discussion qui s'appelle les compagnons du DevOps et tu peux nous rejoindre. On est déjà plus de 1500. Donc c'est hyper simple, tu vas sur compagnon-devops.fr ou alors c'est le premier lien en description, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu vas pouvoir venir discuter et tu verras, on parle de plein de trucs, beaucoup de conteneurs, beaucoup de Kubernetes, mais aussi d'Ansible, etc. Et puis aussi du mouvement DevOps de manière globale. Et moi je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.